Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans votre librairie francophone. Nous allons fêter Noël en musique avec vous et avec nos invités. Et on vous emmène dans une ville poétique pour un reportage apaisant. Vous allez entendre aujourd'hui des chansons de Noël que vous n'avez presque pas ou même jamais entendues. Des chansons francophones, mais aussi des chants de Bob Dylan ou des Beatles. Jean-Michel Guédon et Philippe Margotin ont publié Bob Dylan La Totale et les Beatles La Totale. Ils sont sur notre plateau. Nous serons aussi avec Yves Bigot, grand spécialiste de la chanson francophone et de la musique rock. Nous fêterons également Noël avec Zep et ses histoires étonnantes qu'il dessine dans What a Wonderful World, le tome 2 vient de sortir en librairie. Et puis nous irons à Trois-Rivières, au Québec, pour un double entretien reportage avec le poète Gilles Deveau et le groupe de rock Bears of Legend. Trois-Rivières est une ville unique au monde qui décline la poésie dans sa politique culturelle, dans la rue et même sur les bâtiments.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Et quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. On rejoint tout de suite Billy Robinson qui est au Canada. Bonjour Billy.
Bonjour Emmanuel.
Joyeux Noël à vous Billy.
Joyeux Noël à vous.
Comment
aussi.
Ça se passe dans votre librairie de Verdun à Montréal?
Ça se passe vraiment super bien, les gens sont au rendez-vous.
Oui, grand rendez-vous commercial à Noël, voilà. N'oublions pas. Dominique Bressoux est en Suisse, elle libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
En pleine forme, vous aussi, vous tenez le choc, ça va?
Tout va bien.
Bon. Il est méchant, il est redouté par les auteurs, mais il s'est adouci pour les fêtes, paraît-il. C'est Grégoire Courtois qui est en France. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Vous êtes un libraire à Auxerre dans la librairie Oblique.
Exactement.
Sans tenue rouge, sans rien.
Si, j'ai un petit chapeau.
C'est vrai, vous avez un petit chapeau? Il est où?
Je l'ai pas amené, mais en boutique, je le mets.
C'est
petit chapeau de Père Noël,
vous êtes capable
sûr.
En plus.
Oh ouais, non, mais... bon, on n'est pas compte, je crois.
Ah, si, je me rends compte. En Belgique, il y a Annick Dor qui est installée dans les studios de la RTBF. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Toujours
bonjour
fidèle au poste.
Oui, oui.
Vous êtes libraire à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine.
Je ne mets pas la pression que je dessine, je ne cherche pas, je ne pense même pas que j'ai un public, donc j'essaye de trouver un gars qui me fasse rire, quoi. Et puis après, après je le publie, puis c'est clair qu'il peut être diffusé partout, mais ça, il ne faut pas y penser.
On ne peut pas commencer cette émission de Noël sans une pensée profonde pour Mix et Remix, immense dessinateur de presse suisse qui est mort lundi soir. Philippe Becklin était un de ces dessinateurs engagés qui ont été ébranlés, mais aussi affectés lors de l'attaque de Charlie Hebdo. Nous l'avions reçu ici même pour un livre hommage avec ses collègues mobilisés à ce moment-là. La presse suisse est donc en deuil. Elle a diffusé de très beaux hommages cette semaine. Les personnages de Mix et Remix, avec leur nez surdimensionné, vont considérablement nous manquer. Philippe a été fauché par la maladie au moment même où des Berlinois étaient fauchés par un malade intégriste. Ces ignobles et minables barbares sont aussi lâches que le cancer qui ronge insidieusement des hommes et des femmes, sans distinction, sans règles et sans la moindre compassion. C'est Noël, mais nous sommes forcés de vivre avec l'inhumanité de notre monde. Inlassablement résilients et résistants que nous sommes, nous allons avancer encore et toujours, contraints mais libres, courageux et dignes comme les fauchés de ces camions et crabes. C'est Noël et nous sommes avec vous, près de vous, dans la solidarité et dans l'empathie. Bonjour Zep.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons parler de votre livre What a Wonderful World, magnifique journal dessiné tout à l'heure. Vous connaissiez bien Mix et Remix. Vous voulez bien nous raconter une histoire, une anecdote liée à lui?
Ouais, c'était vraiment un personnage Mix parce que c'est quelqu'un qui était très connu en Suisse depuis longtemps en fait, mais qui faisait pas grand chose pour s'exporter en fait. Il faisait plein de petits boulots. Il faut savoir qu'il a été pendant 10 ans ici crieur à la cathédrale pour boucler ses fins de mois.
Ouais.
Il avait comme ça une vie un peu poétique et absurde, mais depuis les années 80, depuis ses premiers dessins, enfin, il y avait vraiment tout le monde était fan de son travail. Et l'année où j'ai été le Grand Prix d'Angoulême, j'ai pu avoir un choix sur les expositions de l'année suivante. Et donc, j'ai tout de suite proposé une exposition de Mix et Remix pour faire connaître son travail au public français qui n'avait pas l'occasion de le voir. Et donc, on a monté cette exposition. Et une semaine avant, je lui ai dit, tu seras là au vernissage parce qu'il y aura, il y a tous les officiels qui sont là. Il y avait, j'imagine qu'il y avait Ségolène Royal, l'Inévitable, il y avait le ministre de la Culture. Puis il me dit, ah ben non, je peux pas parce que moi j'ai un truc le jeudi soir, tu vois. Mmh. Je lui dis, mais attends, c'est ta première expo en France, il faut que tu viennes, il faut que tu sois là. Il me dit, ah non, c'est trop compliqué, tu vois, je dois déplacer plein de trucs, je peux pas. Voilà, c'était aussi ça, Mix. C'était, il était d'une drôlerie incroyable, mais il se prenait pas au sérieux et donc, c'était pas le meilleur promoteur de lui-même non plus, quoi.
Non, c'est vrai. Grande modestie, hein, chez lui. Vous allez rester avec nous, Zep, hein, évidemment, tout au long de l'émission. Et puis, on va faire cette émission en pensant à Mix et Remix. Et en pensant à toutes les victimes aussi de ces ignobles attentats en cette fichue année 2016. Merci, Zep.
Et je vous jure que j'y ai mis le prix. Il aura des étrennes, lui aussi, c'est promis.
Les chaussettes noires d'Eddie Mitchell en 1961. Nous allons à présent parler sans transition des chansons de Noël avec par extension trois livres sur la musique. Bonjour Yves Bigot.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un grand spécialiste de la musique francophone et de la musique rock. Vous êtes aussi, comme chacun sait, directeur général de TV5 Monde. Vous avez publié Je t'aime moi non plus, les amours de la chanson française et du rock. Peu d'artistes francophones ont chanté Noël, contrairement aux anglophones qui ont tous participé à un moment ou à un autre à un projet pour Noël.
Parce que c'est une grande tradition anglo-saxonne et anglo-américaine que de faire du chant de Noël.
Ouais.
Alors, Elvis Presley, les Beach Boys qui sont devenus des spécialistes.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Phil Spector qui a sans doute produit avec ses différentes interprètes le meilleur album de Noël de tous les temps avec les Crystals, Darlin' Love, les Ronettes, etc. Et puis des artistes inattendus et même Bob Dylan, je pense qu'on en parlera aussi, a enregistré à la surprise générale un album de Noël. Mais oui, on va dire en France et dans la francophonie, ça n'est pas... D'ailleurs, on ne fête pas Noël de la même façon. Alors, ça ne veut pas dire que c'est moins intense, mais c'est pas la même chose. Il y a une féerie absolue si vous allez dans les rues de Londres, de New York, qu'on ne retrouve pas nécessairement à Paris, à Bruxelles, à Genève, à Lausanne, etc. par rapport à Noël. Et donc, du coup, dans la tradition, alors évidemment, en plus, dans l'univers francophone, il y a tellement Petit Papa Noël par Tino Rossi qui est devenu d'une ringardise totalement insoutenable et insupportable, que ça a un peu écrasé, on va dire, beaucoup d'autres tentatives.
Alors Johnny Hallyday, par exemple.
Alors Johnny, mais sans doute parce que fan d'Elvis Presley et connaissant justement la musique américaine, lui a voulu faire effectivement un morceau que je trouve très touchant, qui chante absolument remarquablement, qui s'appelle Noël interdit.
C'est un Noël pour les enfants. Pour tous ceux qui n'y ont jamais cru. Noël de ma vie, mon Noël interdit. J'aurais tant aimé croire à l'histoire.
Touchant, pas très gay non plus, hein, cette chanson de Johnny Hallyday.
Et beaucoup de, alors évidemment, il y a deux catégories effectivement de chants de Noël. Il y a ceux qui sont pour célébrer tout ce qui va avec Noël, hein, depuis le Père Noël, les rennes, le traîneau, les cadeaux, etc. Tout ça, la fête et la famille. Et puis il y a les chansons comme ce Noël interdit, qui sont des chansons au contraire de prise en compte de ce moment très particulier où on ressent plus fort qu'à aucun autre moment de l'année la solitude,
ouais,
quand
ça,
justement on n'est pas en famille avec les gens qu'on aime, qui vous entourent.
Il y a une forme de solidarité en fait, c'est ça, une forme d'empathie pour ceux qui sont seuls. C'est le message, c'est vrai que c'est un message très français ça pour le coup, très franco-belge puisque Johnny est franco-belge.
Oui, Jean-Philippe Smet, bien sûr. Alors c'est pas uniquement français, hein. Vous avez des chansons comme 2000 Miles des Pretenders, etc. hein, qui aussi touchent à cet aspect de à la fois la solitude ressentie de manière tellement forte quand on est seul pour cette soirée de Noël. Alors vous avez les Innocents qui avaient, eux, justement, à l'américaine, mais parce que c'est des fans de pop anglaise, fait un mini-album de chants de Noël, où ils reprenaient notamment Joyeux Noël de Barbara, un autre morceau...
Qui est plutôt désastreux hein, comme album.
Voilà.
Qui est...
Celui des Innocents ?
Oui.
Non, franchement, moi je trouve ça pas assez sympa. Alors je dois vous dire, Emmanuel, je suis biaisé, il m'avait demandé d'écrire leur note de pochette à l'époque.
Donc, voilà. C'était pas un piège du tout.
Non, bien sûr.
J'avais pas lu le livret, je suis désolé.
Mais de toute façon, le livret, il a dû disparaître, sauf à la discothèque de Radio France, évidemment. Hein.
On garde
tous les originaux. Mais sinon, en MP3 ou sur YouTube, vous avez pas les notes de pochette.
Non, c'est ça. Ça, c'est clair.
Mais en tous les cas, c'était une démarche vraiment pop. Et en tous les cas, qui montrait combien justement ils appartiennent à ce monde. Et puis alors, on a eu la surprise que moi j'ai trouvé être une bonne surprise. C'est le titre de Paul Naref,
il y a exactement
un an, qui s'appelle L'Homme en Rouge. Donc L'Homme en Rouge, évidemment, c'est le Père Noël. Et c'est d'ailleurs assez rare dans le répertoire de Michel Paul Naref. C'est une vraie chanson sociale qui s'intéresse.
Là aussi, on est sur la chanson sociale.
Ah ben oui, bien sûr, à tous ceux qui n'ont pas la chance d'être visités, notamment par L'Homme en Rouge.
Sapin éteint, les boules tombent et cassent au son des pots. Les parents dorment indifférents. Fait noir dedans et blanc dehors. J'ai faim, j'ai froid, j'ai peur, je pleure, je suis seul.
Ce titre n'a quasiment pas été diffusé, Yves Bigot, alors qu'il date de l'année dernière. C'était la chanson de Noël offerte par Michel Polnareff à ses fans en 2015.
Et puis c'était son grand retour, surtout tellement attendu, sans doute trop attendu. C'est pour ça que certains ont considéré ça comme une déception. Et puis évidemment, c'est une chanson. Alors si l'homme est en rouge, c'est une chanson assez noire en fait. Très sombre, qui vient un peu casser justement la magie de Noël, mais qui parle tellement bien, effectivement, de tous ceux qui sont déshérités, ou en tous les cas, qui sont abandonnés.
Et il y a des exceptions à la règle de cette morosité, interprétée, on vient de l'entendre, par Johnny Hallyday et par Michel Polnareff, c'est Claude François. Alors Claude François, il a fait deux chansons de Noël, c'est l'exception, parce qu'elles sont très gaies, très égocentriques aussi, comme celle-ci, c'est Noël,
Claude François.
Et j'aurai tout ça.
Une nuit sur le monde enneigé, la messe au clocher a sonné. Minuit, sous l'arbre décoré, chacun a posé ses souliers. Moi j'aurai un vélo et des billets, un bâton et des quilles, c'est Noël, et j'aurai tout ça. Oui, j'aurai.
On ne pourrait plus faire une chanson comme ça aujourd'hui, Bigot.
Heureusement.
Ouais. Oh, elle est pas mal.
La chanson, je ne dis pas.
C'est joyeux.
Vous avez entendu la voix de canard de François, c'est quand même assez spectaculaire. Mais en revanche, et un peu plus sérieusement, c'est vrai que Claude François, c'était un dingue de musique anglaise et américaine. Donc forcément, cette tradition anglo-saxonne forte dans la chanson et dans la musique, il ne pouvait, lui, effectivement, que s'y adonner.
Bonjour Jean-Michel Guédon.
Bonjour.
Bonjour Philippe Margotin.
Bonjour.
Vous êtes également avec nous. Vous avez publié les Beatles, la totale, les Rolling Stones, la totale, Bob Dylan, la totale, aux éditions du Chêne. Ce sont trois gros pavés. Vous racontez toutes les chansons, en fait, de ces groupes et artistes. C'est absolument magique. C'est passionnant. Alors Bob Dylan, prix Nobel de littérature en 2016, qui a fait couler beaucoup d'encre, dans votre livre qui tombe véritablement à pic, vous analysez ses 492 chansons. Effectivement, l'œuvre est monumentale, de là à avoir le Nobel, ça c'est un autre débat qu'on a déjà abordé ici, et je sais que certains à cette table sont très engagés sur le sujet. On rappelle qu'il a publié deux livres, un en 71, Tarantula, un ovni pseudo-littéraire...
totalement naze.
Voilà.
Non, mais il faut le dire.
C'est ça, voilà.
Il faut le complètement raté. Alors, écrit Emmanuel dès 1965, oui. en réalité, oui. sous la contrainte d'un contrat qui avait été signé oui. par son manager Albert Grossman oui. avec un éditeur important américain et qui a finalement été publié, parce qu'il fallait bien respecter le contrat, en 1971, quand Dylan était totalement passé à autre chose. C'est une série de cut-up pas très intéressant.
Non,
et
c'est
des cas qui n'ont absolument rien à voir, évidemment, avec l'attribution tout à fait légitime et tellement attendue du Nobel de littérature.
Voilà. On partage.
Alors oui, vous êtes d'accord, hein, Jean-Michel
absolument,
Guédon. Très bien.
Absolument.
Philippe Margottin, ça vous a surpris, vous
Non, surpris, oui, mais oui. Totalement légitime, selon moi. Oui.
Bon, en tout cas, il y a un autre livre que je vous conseille, en 2004, Chronicles, chronique en français, qui est une autobiographie partielle, qui a été évidemment traduite en français et qui est plutôt bien écrite, plutôt raffinée.
Mais, et qui lui a valu le prix Pulitzer, hein, oui, déjà voilà, l'équivalent
du concours. Alors, déjà, oui. Philippe Margottin, alors du coup, effectivement, il y a dans votre livre un album de Noël qui a été réalisé par Bob Dylan. Bob Dylan s'inscrit finalement dans cette récurrence de ces albums, grands albums, par Elvis Presley, par les Beach Boys, par plein d'artistes comme ça. Il a en fait réalisé cet album, pour quelle raison ?
Alors, au départ, c'était plutôt une commande de sa maison de disques, CBS, et il s'est pris au jeu. Et puis effectivement, il a vu qu'il y avait des illustres prédécesseurs qui s'appelaient Bing Crosby, Frank Sinatra et Presley, bien entendu. Et donc, il a choisi un certain nombre de chansons, certaines typiquement de Noël, d'autres qui avaient eu Noël pour un hiver. Et il a fait un album, moi je trouve assez réussi finalement.
Jean-Michel Guédon, vous le trouvez comment cet album, vous ?
Inégal, pour être franc, mais il y a quand même quelques perles. Moi, je retiens surtout un morceau qui s'appelle Must Be Santa, qui est une sorte de polka. Mm-hmm. De Noël, où justement il a fait il y a eu un clip de tournée avec Bob Dylan habillé en Père Noël, c'est assez rigolo, mais c'est assez génial. Mais Dylan est quelqu'un de très croyant, profondément croyant, et il était très inspiré en faisant et très sincère en faisant cet album.
Et surtout qu'il s'est converti à la religion chrétienne, parce qu'il était issu d'une famille juive.
Absolument.
Et vous dites d'ailleurs dans le livre qu'il ouais. rend un double hommage, à ouais. la fois un hommage à la tradition chrétienne, ouais. et en même temps un hommage à la culture populaire américaine.
Absolument, tout à fait. Oui. En fait, il a fait que suivre ses aînés, comme disait Philippe, Presley, Sinatra, Nat King Cole, etc. Et qui est la grande tradition américaine dont parlait Bigot tout à l'heure. Et il le fait à sa façon, il faut aimer. Mais c'est sincère et c'est le principal.
On va écouter un extrait plutôt gay. Here comes Santa Claus. Vous vous souvenez ?
Oui, absolument. Oui.
Allons-y.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blixen and old as rain, yeah, pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stocking, say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight.
Voilà, bon, la voix est un peu particulière, Bigot, hein, on parlait de voix de canard de Claude François,
c'est,
mais alors là...
C'est vrai, c'est tout à fait autre chose, hein, on va dire, mais surtout ça préfigurait des albums qu'il a fait ensuite, qu'il chante remarquablement bien, qui sont ces deux albums d'hommage à Frank Sinatra. Hein. Il était déjà sur ce chemin, sans doute, quand il a envisagé de répondre donc, à cette commande d'album de Noël. Et aussi, il faut aussi rajouter que c'était un album caritatif.
Alors, c'est étonnant parce que lui, qui est connu pour ses protest songs, comme on dit en anglais, il est très engagé avec des textes toujours sociaux, militants, hein, même, ça va très loin, avec John Baez, notamment, avec plein d'autres.
Ouais,
c'est
le début de sa
carrière. C'est le début de sa carrière. Ouais. Et là, il est dans un côté très consensuel, au final.
Oui, mais c'est le côté religieux de Bob Dylan.
Ah, c'est religieux, ça, vous pensez ?
Ah, je pense que l'album, je pense que c'est ça, quand même, qui l'a guidé. Oui, tout à fait. Oui.
Spirituel, en tout cas.
Il y a un côté tradition.
Philippe Margottin.
Oui, il y a un côté tradition, plus que authentiquement religieux, je pense.
Oui.
Alors, il y a des chansons sur cet album qui ont été chantées par d'immenses artistes. Je pense à Frank Sinatra, au Jackson 5, à Nat King Cole, qui enregistre 4 versions de cette chanson. Cette chanson, c'est The Christmas Song, Philippe Margottin.
Oui, ça appartient à aux grandes chansons traditionnelles américaines où chaque interprète se doit d'enregistrer sa propre version, oui. Et celle de Dylan est du niveau des précédentes.
Everybody knows a turkey, that's a mistletoe. Have to make the season bright. Tiny little tots with their eyes all aglow. Find it hard to sleep.
Grégoire Courtois, vous êtes notre libraire français, vous adorez Noël. Alors on va pas vous faire parler des chansons de Noël, mais que pensez-vous de ces ouvrages, La Totale, Bob Dylan, La Totale des Beatles aussi qui sont sur la table là?
Un petit mot sur Noël quand même, là ce que je viens d'entendre, tout ça m'a fait beaucoup rire. Hein. Je dois dire, je sais que j'ai des amateurs sur le plateau, mais malgré tout, moi j'ai quand même, j'arrive pas à ne pas avoir ce petit sourire en coin quand je les entends chanter Johnny et tout ça. Enfin bon, ça me fait mourir de rire. Ouais. Non, ces ouvrages-là, ces ouvrages qui sont faits pour être des ouvrages de fond, hein, j'ai envie de dire, des ouvrages qu'on va garder tout le temps. Hein. Toutes les chansons de Dylan, c'est un ouvrage que j'ai depuis sa sortie et que je vais garder très longtemps. C'est pas parce que c'est le Nobel, hein, c'est important, c'est un type important dans la littérature.
Surtout qu'il a été, il est sorti avant le Nobel.
Il est sorti il y a près d'un an qu'on l'a dans nos rayons, et c'est important parce que c'est de la littérature importante, et puis pas seulement pour les amateurs de Dylan.
Alors il y a La Totale des Beatles aussi, on va en dire deux mots, parce que il y a une histoire incroyable autour des Beatles et autour des chansons de Noël, avec un projet comme ça qui a duré sur plusieurs années, où les Beatles envoyaient aux membres de leur fan club un disque, un flexi-disque comme on dit, c'était un disque très fin comme ça qu'on pouvait écouter, qui était flexible comme son nom l'indique, et un vrai délire dessus, des blagues, des chants.
Oui, c'était la récréation en fait. Ils ont fait ces disques-là tous les ans de 63 à 69. Et tous les ans, ils se réunissaient pour leur fan club parce qu'ils avaient, ils pouvaient plus répondre à tout le monde. Donc, ils avaient décidé de faire un disque pour les remercier, tous les membres du fan club. Et se retrouvaient en studio et c'était le délire total. Donc, ils partaient d'une chanson traditionnelle et ils déliraient dessus. Puis après, ils se présentaient les uns les autres, les uns après les autres. Ils souhaitaient joyeux Noël, etc. C'était candide, naïf, mais c'était très, très chouette.
Sur ce titre quasi inédit des Beatles qui chantent Noël, on va terminer cette séquence musicale. L'intégrale de Bob Dylan, l'intégrale des Rolling Stones, c'est aux éditions du Chêne. Ce sont des pavés absolument géniaux que vous pouvez acheter pour les fêtes. Merci à vous. Merci Yves Bigot. Je rappelle que votre livre aussi, Je t'aime moi non plus, tome 1, est paru aux éditions Don Quichotte. C'est passionnant. Dès qu'on plonge dedans, on a envie de tout lire parce que vous racontez plein d'anecdotes. J'ai été ravi de passer un peu de Noël avec vous, Yves.
Merci beaucoup, à bientôt. Emmanuel. Et joyeux Noël à vos auditeurs.
Exactement, joyeux Noël à travers toute la francophonie.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires qui vous présentent chacun cette semaine un livre qui, selon eux, incarne l'esprit de Noël. Et on va tout de suite en Suisse, on rejoint Dominique Bressou. Dominique, qu'avez-vous déniché ?
Alors, j'ai déniché, c'est Noël Constant, un autre social de Brigitte Montieri. Alors aujourd'hui, on fêtera à Genève l'anniversaire d'un homme extraordinaire. C'est Noël Constant, né un 24 décembre, il y a 77 ans. Il faut savoir que même si la densité de joaillerie et de banque au mètre carré est étonnante dans la cité de Calvin, il y a quand même des démunis. Et depuis 30 ans, Noël Constant s'occupe, en compagnie de personnes généreuses et chaleureuses, d'une structure qu'il a créée, Carrefour Rue, qui les aide de différentes manières. Mais attention, Noël Constant le dit lui-même dans ses entretiens recueillis par Brigitte Montieri, « Je ne veux pas passer pour le défenseur de la veuve et de l'orphelin, mais juste dire que le monde ne va pas bien avec trop de chacun pour soi. »
Un livre social, hein, là encore, avec Noël Constant aux éditions L'Âge d'Homme. Merci beaucoup Dominique. En Belgique, on va dans le rayon des livres pour la jeunesse avec Annick Dor. Quel livre incarne Noël chez vous, Annick ?
Mais écoutez, souvent quand on pense à ce genre de livres, on pense à des livres porteurs de grandes valeurs comme la joie ou la tolérance. On imagine des textes poétiques, éventuellement parfois même un peu grandiloquents. Or moi, je vais vous parler d'un livre tout petit, tout simple, tout modeste, adressé à de jeunes enfants pour montrer l'importance et les bienfaits de la bonne humeur. Car qui dit bonne humeur, alors entre autres en famille, dit en fait bienveillance et respect des autres. Alors c'est chez Mijade et ça s'intitule « Les sept petits grognons » et on le doit à Estelle Mains et à Sylvie de Mathusiel.
Très bien, on va suivre ce conseil. Merci Annick.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Zep est dans la librairie pour What a Wonderful World, un super titre anglais pour un grand représentant de la BD francophone. Zep, vous êtes aussi le papa de Titeuf, hein, je le dis pour les enfants qui nous écoutent avec leurs parents en ce moment même. C'est un journal, les dessins sont tirés d'un blog que vous animez sur internet et vous dédiez d'ailleurs ce nouveau tome à Gottlieb qui nous a quittés récemment.
Ouais, c'était, il ne devait pas quitter encore quand je lui ai dédié cet album et on s'est parlé encore juste après la sortie du livre et voilà. C'était pour moi c'est un personnage qui a compté beaucoup en tant que lecteur parce que j'ai grandi avec ses albums et après c'était quelqu'un qui était enfin de qui j'étais assez proche, on s'écrivait souvent même si on se voyait peu. Et puis voilà, c'était une sorte de papa pour moi. Je travaillais avec une planche originale qu'il m'avait offerte d'Hamster Jovial en face de mon bureau et je me demandais toujours ce qu'il allait penser de mon travail. On dit souvent en psychanalyse qu'il faut tuer le père. Moi, je pensais que, enfin, j'espérais qu'il serait toujours là, quoi. Ça m'a fait vraiment un coup que Marcel
Pape. Ouais, c'est ce qu'on disait lorsqu'on lui a rendu hommage, hein, dans cette émission. On a réalisé une grande séquence avec, avec des hommages et plein d'entretiens parce qu'on l'a reçu énormément de fois. C'était un ami de la librairie francophone. Effectivement, qu'on pensait toujours qu'il allait être immortel, en fait, Gottlieb. Hein. On n'aurait jamais pensé qu'il nous quitte un jour.
Et il reste là avec ses livres qui sont toujours magnifiques et qu'on peut lire et relire.
Ouais. Puisqu'on est en période de fête, Zep, il y a les vœux pour la nouvelle année envoyés par texto que vous décrivez très bien sur plusieurs planches et qui peuvent mal tomber, mal être interprétés en fonction de la situation que l'on vit au moment où on les reçoit. Alors je ne peux pas tout raconter parce que c'est assez, comment dire, sexuel parfois, mais il y a des choses comme ça qui vous sont arrivées peut-être vous ?
Ah ben c'est clair qu'il y a toujours un truc un peu, une loterie, enfin on reçoit tous des textos de nouvel an et on envoie et souvent c'est des envois groupés donc ça peut tomber très très mal et je me suis amusé à dessiner ces paradoxes. Alors là je les ai plus tous en tête mais je sais que un qui tournait pour la nouvelle année, je te souhaite des étoiles plein les yeux et j'ai fait et c'est Marine Le Pen qui reçoit ce texto face au drapeau européen, enfin voilà ce genre de conneries là. ça c'est des petits paradoxes de la vie qui m'amusent beaucoup.
Vous évoquez aussi la promo à la télé, à la radio avec des journalistes qui vous font répéter les mêmes choses. C'est un peu un monde d'abrutis les médias pour vous ?
Non, ben c'est nous qui faisons les abrutis en fait parce qu'on forcément voilà, on vient redire les mêmes choses c'est clair qu'on bouge aussi avec le temps. On n'a plus le même regard sur notre travail avec le temps, mais enfin, il y a des choses qui sont toujours les mêmes. Moi, si on me demande comment j'ai créé Titeuf, je vais pas vous réinventer chaque fois une autre histoire. Donc, c'est clair que si on écoute sur 20 ans, parce que j'ai dû raconter ça un millier de fois, je pense.
Oui, mais vous adaptez un peu, non ? Non. C'est ça la légende, c'est d'adapter, aussi, de transformer.
On adapte, on rajoute des éléments, et après on peut s'amuser à complètement brouiller les pistes en racontant du n'importe quoi par moment.
Bon, il y a trois libraires qui ont lu votre livre, Zep. France, Suisse ou Belgique, on commence par qui ? Vous préférez commencer par qui ?
Allez, allons en France.
Allons en France. Grégoire Courtois, c'est pas le plus facile. Allez-y.
Non, ça va. Ça va. Parce que c'est vrai que c'est une face réjouissante de Zep qu'on découvre. Enfin, que moi, j'ai découvert. Hein. J'avais pas lu le tome 1. Donc, j'ai été agréablement surpris de trouver une face un peu plus sombre, un peu plus adulte, effectivement, de l'auteur de Titeuf. Mais effectivement, comme il est dit dans le livre, parfois, on voit Titeuf qui grandit et qui peut-être évolue au fur et à mesure des albums. Mais moi, j'ai eu l'impression que, en fait, Zep était incapable de vraie noirceur. Malgré ce côté un peu actuel, il y a toujours de la tendresse, il y a toujours de la candeur, il y a toujours quelque chose qui l'empêche d'être vraiment soit méchant, soit enfin bon bref, vraiment vraiment cynique. Il en est incapable et je me demande si Titeuf grandit, mais est-ce que Zep lui, il est capable de grandir vraiment quoi.
Non, mais c'est un gamin, Zep. Voilà, non, j'ai l'impression. Qu'en pensez-vous ?
Mais est-ce qu'on doit devenir méchant en grandissant ?
j'ai peur.
Je suis pas sûr. En fait.
C'est pas mal cette réponse. J'aime bien.
Absolument. Ouais.
Annick Dor en Belgique. Alors de votre côté.
Ben c'est vrai que pour l'avoir déjà dit dans l'émission, c'est vrai que je suis pas toujours nécessairement une grande fan des BD de notre ami Zeb, hein, que ce soit Titeuf ou Apicex et autres, mais je dois reconnaître que cet album-ci, honnêtement, est, je trouve beaucoup moins préado, beaucoup moins sexuellement basique, on va dire, et donc j'ai beaucoup ri face à certains des gags, et c'est vrai que sous couvert d'humour, il y a un certain engagement politique aussi. Alors je pense aux gags sur la déchéance de nationalité, il y a un engagement sociétal avec l'évocation, par exemple, de la disparition des journaux papier, et puis, bon, ben voilà, il faut reconnaître aussi, il faut vous reconnaître une sacrée dose d'autodérision, et ça, je trouve que c'est quand même une qualité très, très précieuse.
La déchéance de nationalité, Zep, déchéance de nationalité suisse qui serait envisageable pour vous si un jour vous affirmez dans un média que le chocolat belge est le meilleur du monde.
par exemple.
Vous souvenez de ça?
Là, je prendrais de gros risques. Mais le plus gros risque, en fait, c'est de jeter mes ordures dans les mauvaises poubelles de tri sélectif.
Ah oui,
je pense que là, en Suisse, on risque très très gros en faisant ça.
Ouais, c'est vrai. Dominique Bressou, c'est à vous, en Suisse, justement.
Alors, moi, j'ai vraiment adoré ces deux tomes. C'est décapant, c'est drôle à pleurer. Et en fait, comme Grégoire, je trouve que c'est juste presque pas assez méchant. Et en fait, que vous parliez de vos problèmes capillaires ou intimes, ou même de l'état de la planète, c'est un regard acéré mais profondément humain. Pour moi, il n'y a rien à jeter dans ces BD et j'attends avec impatience la prochaine.
Ouais, pareillement, je me joins à vous. Alors, pas si méchant, dans le train, vous avez des poussées de violence, Zeb, je ne vous connaissais pas comme ça. Vous avez un type à côté de vous.
Il y en a une seule.
Ouais, oui, bon.
Ouais, mais elle est très violente, je vous l'accorde.
C'est ça. Qu'est-ce qui vous avait fait, ce type-là, dans le train ?
Oh bon, voilà, c'est un petit moment, c'était ma minute d'intolérance, hein, quand on a droit à son quart d'heure de célébrité. Donc je découpe un mec à la tronçonneuse. Et ça c'est aussi l'avantage de la bande dessinée, c'est que tout à coup on peut évoquer quelque chose d'une violence absolue. Et ça finit bien quand même. Et c'est un défouloir absolument génial. Le titre n'est pas du tout ironique. Hein. Souvent, les gens me demandent si What a Wonderful World, c'est... Parce que pour un dessinateur de presse, ça peut sembler très ironique. Mais
ouais.
Non, moi, je continue à trouver ce monde merveilleux et à trouver que les humains, on est potentiellement des gens merveilleux. On utilise beaucoup notre potentialité dégueulasse, mais on peut aussi faire des choses très très bien.
Mais pourtant, vous dessinez des choses terribles. Vous dessinez le terrorisme, vous dessinez tout ce qui s'est passé là, ces dernières années, ces derniers mois.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça vient... Enfin, je trouve que c'est parce qu'on n'est pas réunis autour d'une idée d'humanité. Hein. Mmh. C'est un exercice classique. Vous demandez à des enfants, c'est quoi la fraternité ? Ils vont vous dire, bon, on est tous frères. Ouais, sauf Raoul qui est un con. Enfin, il y a toujours quelqu'un qu'on veut éliminer de l'idée de la fraternité. Tant qu'on est dans cette manière de penser le monde, c'est clair que ça marchera jamais. Mais au fond, on tend... Et on a quand même un idéal qui tend à nous rassembler autour d'une idée de fraternité humaine.
Ouais. Vous nous racontez l'histoire du savon dans les toilettes publiques d'un cinéma, Zeb ?
Ah non, ça je peux pas.
Ah bah si.
C'est trop dégueulasse.
Mais c'est
ça
pas dégueulasse.
Ça sera réservé à ceux qui, qui achètent l'album.
Mais pas
non,
du tout.
Non, je peux voir continuer une sorte plus poétique. Par exemple, il y a une belle histoire.
Mais pourquoi sur vous en souvenez plus en fait, c'est ça
La publicité pour élargir son pénis.
Ah bah c'est pire. Mais comment ça c'est Noël, hein, je vous rappelle. C'est pas possible, on peut pas raconter ça aujourd'hui.
Justement, tout le monde espère un beau cadeau pour Noël.
C'est pas possible. Bon, on va je laisse pas raconter ça. On va terminer avec les résolutions pour la nouvelle année. Pour vous, ça a été de dessiner... La transition est géniale, j'ai pas fait exprès. Pour vous, ça a été en 2015, je crois, de dessiner moins de zizi. Qu'est-ce que c'est en 2017, vos bonnes résolutions, Zep ?
Écoutez, comme je l'ai pas du tout tenu en 2016, je vais essayer de la reformuler pour l'année prochaine.
Bon,
mais je trouve qu'on a encore pas trouvé beaucoup de choses de plus marrantes à dessiner qu'un zizi. Je suis désolé.
Ah ouais.
J'ai un côté régressif là-dessus, mais je trouve que par moment, c'est une solution pour la paix dans le monde, quoi.
Vous faites beaucoup rire, Dominique Bressou en Suisse. Bon, très bien. Merci beaucoup, Zep.
Merci à vous.
Merci d'être fidèle à la librairie francophone. Wonderful World, tome 1 et tome 2 sont parus aux éditions Delcourt. Et vous avez aussi publié Un bruit étrange et beau, très belle bande dessinée parue chez Rue de Sèvres. À bientôt, Zep. Joyeux Noël alors.
À bientôt, joyeux Noël, merci.
La librairie francophone avec les chansons francophones de Noël, Zep et un reportage poétique à Trois-Rivières. On vous y emmène dans quelques minutes, c'est notre cadeau de Noël. Avant cela, voici le nouveau titre de la québécoise Clopel Gag.
Les yeux fermés. Les féroces.
Le nouveau Klopelgag avec les ferrofluides fleurs sur votre radio francophone. Et dans cette plus grande librairie du monde, on continue, on part en France, Grégoire Courtois. Quel est le livre qui incarne le mieux Noël dans votre librairie, Grégoire ?
Alors, peut-être pas le livre qui incarne le mieux, mais en tout cas qui l'explique le mieux,
ça, sans aucun doute. C'était la mission quand même. Hein.
Oui, mais il l'explique très bien, et c'est quand même un beau livre sur Noël.
Tout est autorisé aujourd'hui.
Ouais, alors, c'est Claude Lévi-Strauss, déjà, je vous arrête, parce que déjà, il faut être un peu de respect pour ce grand monsieur, anthropologue, qui s'intéresse pour une fois à son propre peuple et à cette coutume, à ce rite, à cette tradition de Noël. Il se base sur un fait divers qui a défrayé la chronique en 1951, des autorités catholiques qui brûlent un Père Noël sur la place de Dijon. Et ça a été un truc incroyable. Et lui, il utilise ça pour essayer de savoir pourquoi les autorités catholiques sont contre le Père Noël. Et du coup, ça donne un petit essai qui a été publié à l'époque dans les Temps modernes et qui là, aujourd'hui, est republié par les éditions du Seuil. C'est assez court, mais ça vous synthétise tout ce qui est vraiment Noël aujourd'hui.
Très bien. Le Père Noël supplicié aux éditions du Seuil de Claude Lévi-Strauss. Merci Grégoire. Billy Robinson pour le Canada. Allons-y.
Alors moi, j'ai le goût de vous proposer Le Noël de Marguerite, d'India Desjardins et Pascal Blanchet aux éditions La Pastèque.
On avait reçu pour ce livre, je me souviens, c'était à Montréal, on s'était retrouvés sur le marché de Noël et on avait fait une interview autour de ce livre sur le marché de Noël.
Alors c'est fantastique parce que India Desjardins nous a habitués à des histoires plus légères et plus édulcorées, bien sûr, mais elle se révèle ici là, comme une auteure sensible dans ce beau conte là, pour grands. Une histoire attendrissante sur le vieillissement, la solitude, mais aussi là, sur la nostalgie et les traditions qui se perdent, des thèmes là, qui me touchent particulièrement. Et les illustrations de Pascal Blanchet, bien entendu, ajoutent un style vintage qui va magnifiquement bien avec le thème de l'histoire. Donc un beau livre à lire et à relire.
Aux éditions La Pastèque, Le Noël de Marguerite, et Pascal Blanchet sera dans la librairie francophone début janvier dans le cadre d'une émission spéciale autour des 150 ans du Canada que nous sommes en train de préparer. Nous partons à Trois-Rivières à présent, entre Montréal et Québec, avec un poète que vous avez d'ailleurs lu, Billy Robinson. Il s'agit de Gilles Deveau qui a publié L'aube d'un long été, un livre que vous avez particulièrement apprécié, je crois.
Oui, et son recueil est touchant. Il nous rappelle qu'il faudrait se retrouver un peu plus avec soi-même et avec l'autre. L'auteur écrit la nostalgie et les agitations physiques et sentimentales engendrées par l'influence, peut-être, là, des astres ou la nature qui nous entoure.
Voilà, on va retrouver cet auteur. On part à Trois-Rivières, une ville unique au monde, par son engagement pour la poésie, le croisement des cultures. Musiciens, plasticiens, comédiens et poètes se côtoient au quotidien. Nous sommes allés sur le chemin de cette culture internationale, avec donc Gilles Deveau, mais aussi le groupe Bears of Legend.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Voilà, la librairie francophone à Trois-Rivières. Avec un poète, un grand poète de Trois-Rivières. Bonjour Gilles Deveau.
Bonjour.
Vous êtes un poète québécois, donc, de cette ville de Trois-Rivières qui se situe entre Montréal et Québec. Et chaque année ici, il y a un festival international de poésie. C'est un festival qui est connu dans le monde entier. C'est une vraie référence, une ville référence de la poésie.
Oui, ça fait une trentaine d'années qu'il y a le Festival de poésie ici. Et le Zénob, c'est vraiment le port d'attache, si on veut, du festival depuis 30 ans. Alors, les gens se rencontrent ici pour les dernières lectures de fin de soirée. Trois-Rivières, c'est une ville aussi sur la poésie. On peut voir sur plusieurs bâtisses. Il y en a ici sur les murs du Zénob, des extraits de poèmes de différents poètes du Québec.
Voilà, sur les différentes bâtisses effectivement, de la ville, on voit des citations. Oui, alors, on est devant justement hein, le Zénob, qui est un café-bar. On arrive justement sur ce lieu-là, bar-spectacle. Avec cette entrée, cette porte blanche, ces briques rouges comme ça tout autour.
Alphonse Piché ici. Ouais.
Le Zénob, cœur ouvert à la bonne aventure, offre à tous ses amis heureux ou malheureux, ainsi qu'il est inscrit de par la devanture, sa bière douce et fraîche et son vin chaleureux.
Ça donne le goût d'entrer.
Ça donne le goût d'entrer, allons-y, parce qu'en plus il pleut, il fait froid, c'est l'hiver, allons nous réchauffer à l'intérieur. Avec une petite scène, dès qu'on rentre. Et puis des tables, on va s'installer ici à Gilles avec cette table en bois. Et le Zénob écrit en lettres d'étain, inscrites, ancrées comme ça dans cette table en bois. Mm-hmm. Gilles Deveau, vous avez écrit des pièces de théâtre. Vous avez aussi fondé le théâtre de face, co-fondé le théâtre de face. Et vous avez dit que votre démarche était essentiellement exhibitionniste.
Je pense que n'importe quelle démarche d'un artiste est un petit peu exhibitionniste. On s'exposait beaucoup dans ça. On prenait beaucoup, beaucoup de risques. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup d'adaptations à partir de romans. J'ai fait beaucoup de spectacles, de collages avec des poèmes, entre autres, des extraits de pièces de théâtre, des chanteurs. Alors, ce mélange-là faisait qu'on faisait rarement des pièces écrites pour le théâtre.
La poésie est-elle une forme d'exhibitionnisme de nos états d'âme?
Oui, c'est sûr qu'on pourrait dire ça. Oui, la poésie, c'est intéressant parce qu'on dit des choses très intimes de soi et personne ne s'en aperçoit, d'après moi.
C'est sûr. Si après, on les analyse.
Oui, je sais qu'il y en a qui vont même inventer des choses. Oui. Mais je veux dire, quand on sait que c'est pas un aveu immédiat, clair, précis, c'est-à-dire qu'on se cache beaucoup, on se cache en poésie, mais en même temps, on se livre énormément.
Alors, comment expliquez-vous finalement que cette poésie, dans le monde, elle est, je dirais, un peu sous-évaluée. Aujourd'hui, la poésie a du mal à s'intégrer dans la société culturelle. On est ici à Trois-Rivières parce que, justement, c'est un exemple mondial. Hein. C'est un témoignage.
Oui, c'est l'oralité aussi. Hein. Je pense que les gens ont de la difficulté avec la poésie parce que lire un recueil chez soi, c'est pas évident. Des fois, les gens disent « Ah, j'aime ça quand j'entends les poètes parce que là, il me semble que je comprends mieux le poème. » Et c'est normal aussi parce que un poème, c'est pas uniquement le poème écrit sur une page. Il y a un rythme, il y a une musique qu'il faut qu'il soit porté par un lecteur, si on veut. N'importe qui se présente devant quelqu'un, comme ici au festival, c'est un spectacle, c'est une représentation.
Gilles Deveau, votre recueil « L'aube d'un long été » est publié aux éditions Les Écrits des Forges. Alors, dans ce recueil, vous décrivez des ambiances, des envies, des impressions de vie aussi. Votre poésie est-elle une façon d'embellir la vie?
Question d'embellir la vie, oui, je pense que c'est Renoir, je pense, qui disait ça, qu'il faut rendre la vie plus belle. La poésie que j'écris est assez simple, beaucoup d'images, très proche de la nature aussi. Et pas, même si parfois dans mes recueils, ça part d'une désespérance, mais j'essaye tout le temps que ça s'en aille vers quelque chose d'autre. Pour moi, la poésie, c'est une action. Il faut que je sorte d'un état, que j'arrive à un autre.
Alors, que peut-il se passer en ce jour de Noël? Quel est le meilleur message pour embellir la vie, Gilles Deveau?
Le meilleur message, c'est d'apprendre à la voir, hein? Prendre le temps, justement, de s'arrêter puis de laisser la musique des poèmes entrer en nous. Puis je pense que ça peut être un très beau cadeau, puis c'est une très belle façon d'être en joie et en fête, peut-être, de laisser les mots entrer dans nous.
Merci beaucoup, Gilles. Vous allez nous lire un poème sur cette musique de Bears of Legend, puisqu'on va retrouver un groupe dans un autre lieu de Trois-Rivières. Vous connaissez ce groupe, Bears of Legend?
Oui.
Bon, voilà, on va les retrouver dans un instant. C'est le son du monde de la semaine, spécial Noël, avec Gilles Deveau, qui va lire un extrait de ses poèmes. Et cette musique, donc, de Bears of Legend, que l'on retrouve dans un instant. Et on va quitter le Zénobe. On va se retrouver dans les rues de Trois-Rivières, à la recherche d'un café qui s'appelle apparemment le Morgane.
S'il suffisait, ouvrir les bras ou l'œil. Cette lumière sans pluie, fracas d'une main sur la joue, miracle, brisure sur la peau d'un fruit, roulis des nuques qui se frôlent, l'hiver et la paix des sources, chant profond de la lune endormie, quand l'ombre repasse frileuse sous le frisson des étoiles filantes. S'il suffisait d'une fois poser la main sur le luxe d'une épaule pour que s'arrête un instant le ramage des âmes envolées. S'il suffisait d'ouvrir l'œil dans le craquement d'une branche pour que reluise à nouveau dans la mémoire des muscles les déjeuners sur l'herbe des premières étreintes.
Sometimes you're scared when you talk to me. Sometimes you're not when you speak for you.
Voilà Gilles Deveau, on est arrivé avec Bears of Legion. On est au Morgan, un autre café, donc dans la ville de Trois-Rivières. Bonjour David Lavergne.
Salut.
Bonjour Claudine Roy.
Salut.
Merci beaucoup de nous recevoir ici. Pourquoi le Morgan?
Ben, c'est un endroit quand même particulier pour nous, dans le sens où on a tourné une vidéo. Les gens peuvent aller voir sur le web, c'est disponible. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était fait passer pour des clients à l'époque. Les gens ne nous connaissaient pas non plus énormément dans le coin. On a débuté la chanson de façon très, très, très progressive. Chacun de nous, on se levait dans la place, puis on ajoutait notre partition de notre instrument dans la chanson jusqu'à tous se réunir, tous les sept musiciens, sur une scène un peu improvisée ici dans ce café.
Alors, c'est un café qui est très grand, hein, faut le dire, avec beaucoup, beaucoup de monde qui étudie, beaucoup de personnes avec des ordinateurs très sérieux, d'autres qui boivent leur café. Et c'est ici votre région, la Mauricie, donc le groupe Bears of Legion est né ici à Trois-Rivières.
Oui, en fait, un petit mélange entre Shawinigan, qui est un petit peu plus au nord, et Trois-Rivières. On connaît tous les raccoins de cette ville.
Moi, je vous ai vu en concert. Vous êtes très nombreux sur scène avec des instruments effectivement magnifiques. Ça résonne vraiment, ça sonne vraiment. On l'a entendu tout à l'heure lors de notre déambulation entre le café de Gilles Deveau, le Zenob, et celui-ci, le Morgan. On a comme ça une ambiance de vie, une ambiance de nature aussi. La nature est très présente dans votre album.
Oui, mais très, très présente aussi dans notre région, je vous dirais.
Ah oui, c'est pour ça, oui.
Ça représente quand même bien notre milieu de vie. Puis à Shawinigan, on a aussi beaucoup de cours d'eau. On a une rivière qui s'appelle la rivière Saint-Maurice, sur laquelle je suis allé faire du canot toute ma jeunesse avec mon père. Puis dans notre cas aussi, c'est une forme de refuge, la nature, dans laquelle on se sent extrêmement bien, puis très inspiré aussi au quotidien dans notre cas.
Et la nature, ce refuge, ça provoque la spiritualité aussi. Je sais que vous êtes influencé, David, par votre père, qui avait une spiritualité, vous dites, proche des autochtones.
Oui, totalement. Une spiritualité qui est très simple, puis qui nous ramène, nous, comme êtres humains, à notre juste place dans cet univers-là. Quand on est en nature, on est supposé être en harmonie avec ce qui nous entoure. Puis ça m'a énormément inspiré pour les textes, pour la façon aussi d'aborder notre projet. On n'est pas un projet qui s'impose. On cherche notre juste place dans ce monde-là. Stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. Stand up for your freedom. Stand up, stand up, stand up, stand up.
Ça vous inspire la poésie, ça vous porte, la poésie de Gilles Deveau ou de tous les autres, ça résonne en vous?
Oui, bien à Trois-Rivières, comme vous savez, on a le Festival international de poésie, puis moi je m'adonne à chaque année à aller voir ça, puis j'aime beaucoup à l'écoute, j'aime même dans une langue étrangère, pour moi j'arrive quand même à comprendre un peu le sens du poème, même si je comprends rien, tu sais. Mais c'est, oui, moi j'adore ça, j'ai toujours aimé la poésie.
La langue française. Alors, David Lavergne, parlons de la langue française, parce que vous chantez principalement en anglais.
Oui.
Mais il y a, sur chaque album, vous en avez fait deux, il y a toujours une chanson en français. Pourquoi une seule chanson en français?
Ben, une seule... premièrement, pourquoi autant de chansons en anglais?
si vous voulez, on peut prendre ça comme ça.
Voilà. Pourquoi autant de chansons en anglais? Je vous dirais que c'est surtout c'est par instinct que j'écris de cette manière-là. Aussi, par habitude. Depuis ma jeunesse, mon père parle très bien anglais. Ma mère, elle ne parle pas du tout anglais. Elle parle seulement que français. Mes émotions se sont traduites de façon plus facilement en anglais. Ça a été une langue qui m'a permis d'exprimer mes émotions dans ce sens-là. Tout mon imaginaire aussi est venu de cette part-là de la langue. Et puis, le français, bon, c'était davantage pour le côté rationnel de mon cerveau. J'ai fait toutes mes études en français. Ouais. C'est plus difficile pour moi d'écrire.
C'est plus concret, ouais, c'est ça. C'est plus difficile parce que c'est plus concret. Exactement. C'est plus cru. Vous dites que la langue française sert à énoncer crûment les choses.
Ouais, les faits. Pour moi, c'est quelque chose de plus rationnel. J'ai encore la difficulté à créer quelque chose de beau en français. Donc, une chanson comme Encore, qui se retrouve sur le dernier album, ou La Rivière sur le premier album, c'est des chansons qui m'ont pris tellement de temps à écrire que je m'en serais pas sorti vivant d'écrire un album complet en français. Puis je lève mon chapeau très humblement à tous ceux qui le font, parce que un talent puis une humilité incroyable pour le faire.
Voilà, écoutez, Bears of Legend, le nouvel album est sorti, vous pouvez le trouver partout à travers la francophonie, il s'appelle Ghost Witten Chronicles, voilà, avec mon anglais fabuleux. Je vous remercie beaucoup, merci pour cet instant poétique et musical, merci Gilles Devaux.
Merci à vous.
Bears of Legend, retenez ce nom, ils sont sur le chemin d'Arcade Fire de tous les grands groupes que vous écoutez en ce moment, c'est un futur groupe incontournable et c'est déjà quasiment le cas. Merci beaucoup David, merci Claudine.
Merci à vous.
Merci. Entre la vie et la mort, malgré le temps qui me fuit, comme un voleur de présent, m'aimes-tu? Parle plus. Que ton visage s'efface. M'aimes-tu?
Le groupe Bears of Legend avec encore extrait de leur dernier album. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Céline Hila avec Florent Beauvallet. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse. René Mikils et Valérie Leput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, émission spéciale pour la transition 2016-2017 avec des surprises et des moments d'humour dans un esprit loufoque et décalé. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, Grégoire.
Bon, joyeux Noël.
À bientôt.